médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette dernière librairie francophone de l'année 2019. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de cette année avec nos libraires. Ce sont eux qui ont choisi le programme. Josiane Letourneau représente le Canada, Mathieu Colombe est en France, Déborah Damblon est avec nous pour la Belgique et Claire Renaud représente, elle, la Suisse. Bonjour à tous.
Bonjour,
bonjour
Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça y est, les bienvenus dans cette émission. On est ravis de vous accueillir. Les invités, aujourd'hui, c'est vous. Vous entendrez donc les Belges Charlie Delwart et Myriam Leroy, le choix d'un de nos libraires, la comédienne et auteure de livres jeunesse française Marlène Jobert, le Suisse Roland Buty, l'auteur de BD Christian Binet, célèbre pour ses bidochons, le Québécois d'origine sénégalaise Boukhar Diouf pour un livre complètement improbable, et les écrivains français Jean Tellet et Sorge Chalandon. L'année 2019 a été riche en librairies. Il est temps de vous faire partager ce qui nous a marqué cette année, avec au passage donc quelques idées cadeaux pour le nouvel an.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et nous allons commencer ce florilège avec notre libraire français d'Aix-en-Provence, Mathieu Colombe. Il vous envoie aujourd'hui une carte postale culturelle provençale avec deux auteurs, deux livres et deux moments d'antenne qu'il a particulièrement apprécié cette année. Mathieu, c'est à vous.
Oui, Emmanuel, et ici à Aix-en-Provence, l'événement culturel qui a été très marquant et qui est très inquiétant, je pense, pour la totalité de notre profession, c'est la fermeture de mon confrère et ami, la librairie de Provence, qui est due, en fait, à quelque chose qui est très, très inquiétant pour ma profession, c'est donc à la hausse des loyers qu'ils n'ont plus pu assumer. Ouais. Ça a été, pour la ville, en fait, un gros problème au niveau, notamment, de la lecture publique, parce que c'est nous qui servons les bibliothèques, et aussi, je pense, pour tous les clients.
Non, très bien, vous avez raison, car il faut toujours s'inquiéter de la disparition d'une librairie indépendante dans une ville. Il y a deux livres, deux moments d'antenne que vous avez choisis pour nous, Mathieu.
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, il y a eu, quand vous avez co-animé l'émission avec Jean Tellet, parce que le tandem marchait très très bien, on voyait qu'il y avait une grande complicité entre vous, et le moment partagé a été très agréable. Et en plus, j'aime beaucoup l'œuvre de Jean Tellet, donc j'aime beaucoup en parler à la radio.
Ouais.
Ensuite, il y a eu l'émission avec Boukhar Diouf, parce que Boukhar Diouf, en fait, faire une émission avec lui, c'est quelque chose. Il est truculent, il est drôle, sa voix en impose. Et en plus, le petit ouvrage dont on a parlé était très intéressant. Et en plus, j'avoue, parler de caca à l'antenne, ça n'a pas de prix pour un grand enfant tel que moi.
Les excréments, très exactement, vous dévoilez tout. Mais bon, Boukhar Diouf, le Québécois d'origine sénégalaise. Et puis, Jean Tellet, c'était pour son livre Gare à loup, paru chez Julliard. On avait effectivement co-animé aussi l'émission au Salon du Livre de Paris. On les écoute, Jean Tellet tout d'abord, et ensuite Boukhar Diouf. On est très loin dans le futur, la planète est bizarre, les dirigeants sont bizarres, on paye en euro-yens, et Lou, 12 ans, en a marre d'être maltraité par la vie.
Et voilà. Et elle en a marre parce que, entre autres, on se moque d'elle parce qu'elle a un petit peu les incisives en avant, comme ont souvent les petites filles. Et à l'école, on l'appelle dent de lapin. Et quand elle raconte ça à sa mère, elle lui dit, mais il faut pas que tu te laisses faire, il n'y a pas de raison, réagis. Le lendemain, elle va pour aller à l'école et il y a un caïd de sa classe qui monte un escalier. Elle le regarde, elle dit, toi, je voudrais que tu tombes dans l'escalier. Aussi sec le mec tombe.
Ouais.
Elle s'aperçoit de ce truc-là. Il y a une fille à côté qui va pour la dénoncer, qui dit, c'est dans le lapin qui a... Elle regarde la fille, elle dit, toi, et ça y est, c'est parti.
Et c'est parti.
À chaque fois qu'elle va souhaiter du mal à quelqu'un, ça va se produire immédiatement. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être repéré par un gardien de la paix. L'information va monter jusqu'au président de la République, ouais, qui va décider d'utiliser cette gamine comme une arme absolue contre tous ceux qui emmerdent le pays.
Ben voilà, vous avez tout raconté. Merci d'être venu, voilà. Jean Tellet. Bon, c'est vrai que le président, il est complètement bizarre, ouais, parce qu'il siège dans un palais un peu spécial, une boule de neige.
Une boule à neige.
Une boule à neige, vous, ouais, savez qu'on retourne, voilà, voilà, vous avez imaginé ça. Il est confronté au problème, alors il n'y croit pas, personne n'y croit au départ.
Et oui, et puis c'est vrai, et donc ce président qui s'appelle Hannibal Chanchou envoie ses trois chefs de guerre avec la gamine qui doivent s'occuper d'elle nuit et jour.
Ils vont l'enlever,
ouais. Ils doivent lui faire à manger, mais ils en ont vite marre parce qu'elle veut bouffer que des nuggets d'autres. autruche, donc au bout d'un moment, ils en ont marre et tout. Et il lui distribue les ordres de la présidence et elle fout le bazar un peu partout dans le monde. Sauf qu'elle rentre en crise d'adolescence et que du coup, elle devient absolument ingérable. Et très vite, les trois chefs de guerre regrettent le bon temps de la bombe atomique qui était autrement plus facile à manier que cette boutonneuse à appareil dentaire qui est absolument ingérable.
Qu'on voit sur la couverture, je montre le livre au public. C'est vrai, quand on a fini la lecture, Jean se demande quel message vous avez voulu faire passer. Parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de traiter l'histoire de France avec beaucoup d'humour. Il y a toujours des histoires très concrètes qui nous apprennent plein de choses, qui sont drôles aussi. Puis là, c'est assez bizarre.
Oui, mais j'avais envie de faire comme un conte un peu fantastique, un peu futuriste. J'avais envie de refaire un livre comme j'avais fait il y a longtemps. C'est la dernière fiction que j'avais écrite, Le Magasin des Suicides. Ouais, et j'avais envie de retourner dans cet univers-là.
Bon, quand on perd toute humanité, Jean Tellet, la seule survie, c'est la farce. C'est la dérision. Parce que là, on est dans un monde qui a perdu toute humanité.
Mais oui, oui, oui. Mais oui, il n'y a que ça. Moi, je dis souvent que Jeanne d'Arc, quand elle était sur son bûcher, quand elle avait fini de pisser pour essayer d'éteindre les flammes, à part se marier, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, quoi ? C'est une porte de secours, l'humour, bien sûr. Ouais, ouais.
Bon, on va écouter la BO de ce roman, Jean Tellet. Vous avez choisi d'écouter Alain Souchon. Et si, en plus, il n'y a personne ? Pourquoi ce titre-là ?
C'est parce que dans mon roman, dans celui-là, dans beaucoup de romans, je parlais de la religion, souvent pour en dire du mal. Et là, j'avais envie de décrire un monde où il n'y avait pas de religion. Mais même pas pour en dire du mal, pas un temple, pas une rue du Saint-Machin. Et même dans les phrases, je m'interdisais des mots comme adieu, comme je vous en prie et tout. Et tout d'un coup, ça fait un monde sans religion. Ça soulage. Et ça m'a fait penser à cette formidable chanson, tellement bien écrite de Souchon, qui s'appelle « Et si en plus, il n'y a personne ?»
Tant d'angélus. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus.
Et bonjour Boukhar Diouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de Montréal, Boukhar, après un essai sur la communication des arbres qui avait fait beaucoup parler de lui dans cette émission. Vous publiez un essai inattendu sur les matières fécales des animaux et des hommes. Les bouses et autres résidus de digestion sont parfois très utiles. On doit beaucoup, par exemple, aux excréments du poisson perroquet.
Ben voilà, c'est un livre sans prétention, mais je voulais faire cet exercice de vulgarisation parce que les matières fécales, nous avons vraiment une relation amoureuse avec les matières fécales. On le voit avec les enfants. Oui. Quand ils sont tout petits, on leur dit « t'as fait un beau caca », on le dit parfois aux enfants. Mais en vieillissant, on soulève les couches et on manifeste du dédain. Et cette idée du rapport amoureux qu'on a avec le caca m'a amené à parcourir un peu le monde animal pour démystifier la chose.
Oui, alors le poisson perroquet.
Le poisson perroquet en fait partie, effectivement.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Donc c'est un poisson qui mange le corail.
Oui.
C'est ce qui mange le corail et qui extrait ce qui est nutritif là-dedans et défèque une partie de ce qui constitue le sable fin de certaines plages sur lesquelles on aime bien se dorer la couenne, voilà. Pour les voyageurs avertis.
C'est vrai que les scientifiques, il y a des scientifiques, c'est très sérieux, hein, qui pensent que 70% du sable des plages des Caraïbes provient des déjections du poisson perroquet. C'est pas rien, quand même.
Mais heureusement, oui, c'est vrai, mais heureusement, on s'en rend pas compte quand on a un verre de margarita.
Dans votre essai sur les arbres, vous parliez aussi un petit peu de votre enfance. Et vous racontez, encore une fois, là, que votre maman vous envoyait chercher des bouses de vache dans la savane pour faire la cuisine.
Ah ben oui, tous les Africains qui écoutent, qui viennent du Sahel, savent que la bouse de vache séchée, c'est un combustible extraordinaire. Et donc, nous, quand on était jeunes, on allait ramasser la bouse de vache. Moi, je viens du Sénégal, je suis un serreur du centre du pays, de la région de Fatick. Et la bouse de vache séchée, on appelle ça umbel dans ma langue. Et le umbel, on ramassait ça et on l'utilisait comme combustible. Et puis donc, c'est en fait, je reste dans la continuité parce que
oui, c'est vrai.
Passer des arbres aux excréments, les excréments, c'est le fertilisant. Et la planète végétale a évolué en regardant les animaux. Parce que la vérité, c'est que une fraise, quand elle est mûre, elle est sucrée, n'est-ce pas?
Oui.
Mais elle est sucrée, quand elle n'est pas mûre, elle est légèrement toxique et on ne peut pas la manger. Pourquoi la fraise, elle synthétise du sucre quand elle est mûre, la fraise? C'est parce qu'elle sait, elle dit aux animaux, venez me manger, vous allez déféquer mes graines de l'autre côté pour que je puisse germer. Alors, les plantes se sont adaptées sur la planète bleue en étroite collaboration avec les animaux.
Oui, c'est vrai.
Et les biologistes ont un beau terme pour désigner ça. On appelle ça l'endozoochorie.
C'est ça.
C'est-à-dire la dispersion des graines des végétaux à travers les excréments des animaux.
Alors, c'est vrai que les végétaux,
ce thème-là aussi, oui.
Les végétaux encouragent les animaux à les manger. Et on a constaté,
absolument,
on a constaté du coup que certains végétaux se protègent de certaines espèces animales inutiles pour eux. Le piment, par exemple, qui contient de la capsaïcine, qui met le feu aux papilles en fait gustatives, en est un exemple.
Voilà.
Le piment ne souhaite pas être mangé par l'homme, mais en revanche, voilà, les oiseaux, eux, sont insensibles à la capsaïcine.
Et voilà, les oiseaux étant insensibles à la capsaïcine, parce que les oiseaux disséminent, ils n'ont pas les récepteurs de la capsaïcine que nous
voilà,
avons.
Ouais.
Donc les oiseaux disséminent les graines de piment par leurs excréments. Si on pousse la réflexion plus loin, j'ai parlé du bousier, mais il y a un arbre africain qui s'appelle Ceratocarpium. Ceratocarpium, au cours de l'évolution, a développé des graines qui ressemblent à des boules de bouse de vache. Parce que vivant à côté des bousiers, l'évolution l'a poussé à développer cette stratégie pour que les bousiers confondent ces graines à des boules de bouse de vache et puissent les enterrer. Donc, il se fait germer gratuitement. Donc, ça, c'est de la coévolution.
Bon,
permet aux plantes de faire ça. C'est fantastique.
Bon, Bocar Diouf, on va parler d'un café très rare. Si vous êtes amateur de café, c'est en Thaïlande. Le Black Ivory, produit grâce à des grains de café torréfiés par l'éléphant. Expliquez.
Ben voilà, c'est juste des éléphants souvent vieillissants. Mais le fait de faire manger les graines de café aux éléphants qui traversent leur tube digestif, apparemment, ça leur donne un petit goût de revenez-y. Alors, les gens doivent ramasser les graines de café qui ont transité par le tube digestif de l'éléphant.
Qui
et
sont
après,
intactes.
Ces graines sont torréfiées et ça coûte cher.
Et ça coûte cher parce qu'il faut 33 kilos de café, de graines de café pour en récupérer un seul kilo parce qu'on récupère ce qui est intact. Et donc, ça coûte 1 100 $ le kilo de café, soit environ 50 $ la tasse. Et si ça vous tente, le livre de Bocar Diouf, Apprendre sur le tas, c'est aux éditions La Presse. À suivre une escale au Québec avec notre libraire Josiane Letourneau et avec deux auteurs belges et suisses. Avant cela, voici Amado et Mariam et Manu Chao dans la dernière librairie de l'année 2019.
C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti, la gare, Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour, solo, Gao, l'Algérie. J'aime au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 h au Mali, quelle heure est-il au Parasite? Il est minuit à Tokyo, il est 5 h au Mali, quelle heure est-il au Parasite? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème, où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris.
I'm
C'était Amadou et Mariam avec Manu Chao, Sénégal Fast Food dans la librairie francophone. On part à Montréal à présent avec notre libraire Josiane Letourneau qui vous envoie sa carte postale sonore culturelle de l'année 2019 avec ses choix d'auteurs à écouter aujourd'hui, mais aussi un fait marquant de l'année pour vous, Josiane.
Eh bien, Emmanuel, ici à Montréal, cette année 2019 a été marquée, selon moi, par un événement radiophonique, le Combat des livres, qui se déroule depuis plusieurs années dans le cadre de l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, la journaliste Marie-Maude Denis l'a remporté en défendant le superbe roman « Sans capote » ni Kalachnikov de Blaise Ndala,
ah oui,
publié chez Mémoire
qu'on avait reçu dans l'émission, d'ailleurs.
Oui, et ça, honnêtement, ça a été une profonde satisfaction.
Alors, deux auteurs vous ont marqué, ils ne sont pas québécois, ceux-là.
Non. Ben en fait, Myriam Leroy, on s'entend que 2019 a aussi été marqué par une dénonciation globale de ce que vit son héroïne dans le roman Les yeux rouges. J'ai donc trouvé son propos extrêmement pertinent et le roman lui-même fait partie des rares cette année que j'ai lu dans une sorte de frénésie, tout en étant complètement dégoûtée par le constat qui s'en dégage.
Sur le harcèlement sexuel, exactement.
Tout à fait. Et bon, on enchaîne avec Roland Buty. Là, j'avoue que même si j'étais ravie d'entendre la voix derrière l'œuvre, c'est vraiment le roman qui m'a particulièrement ébloui. C'est un des délicats bijoux de l'année pour moi. Un roman que je me suis empressée de faire lire dans l'espoir de pouvoir prolonger le plaisir dans le partage. Et c'est la librairie francophone que je dois remercier pour cette fabuleuse découverte. Merci beaucoup.
On vous en prie. Voici donc dans l'ordre la Belge Myriam Leroy et le Suisse Roland Buty.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Myriam Leroy.
Bonjour.
Votre nouveau roman Les yeux rouges raconte une histoire de harcèlement sur Internet. Votre personnage, journaliste à la radio et chroniqueuse à la télévision, comme vous, reçoit un jour un message sur Facebook. C'est un fan a priori.
C'est un fan qui s'insinue dans la vie de la narratrice avec une drague un peu lourdingue, pas fondamentalement antipathique, mais tout de suite un petit peu déplacée parce qu'il met quand même la conversation sur un plan intime, ouais, et sexualisé alors qu'il se dit marié, très heureux en ménage.
Il est intrusif, quoi.
Voilà, il est intrusif. Mais c'est un lourd, un balourd comme on en voit plein, sauf qu'en fait ce balourd va à un moment donné péter une case.
Mais alors tous ceux qui sont exposés dans les médias, Myriam Leroy, connaissent ce genre de harcèlement à un degré plus ou moins grand. C'est immonde, c'est perturbant, mais finalement, il faut s'attendre à être insulté, non ?
Bien sûr, je pense que quand notre existence est portée à la connaissance du public, il y a des chances pour qu'on tombe sur des personnes malveillantes qui ont envie de nous emmerder. Par contre, on nous dit souvent aux femmes médiatisées que c'est le revers de la médaille, sauf que c'est une médaille que je ne vois pas portée de la même manière par mes homologues masculins. Je connais aucun type qui a vécu les mêmes histoires que moi, alors que je connais plein de consoeurs qui ont vécu les mêmes histoires que moi. Et c'est un livre qui ne parle pas des femmes médiatisées, enfin, dans la narratrice l'est forcément, mais moi je voulais pas parler de moi ou de mon cas personnel, parce que toutes les femmes, à partir du moment où leur attitude ne permet plus de les confondre avec un paillasson, sont exposées à ce type de comportement haineux et misogyne.
Mais pourquoi elle n'arrête pas cette relation ? Pourquoi, comme ses amis lui disent d'ailleurs, ouais, elle ne le bloque pas sur Facebook ? Ça, c'est possible ça, on le fait.
Bah, elle l'explique à un moment donné du livre, ouais, hein, y a le hors-champ qui apparaît.
Non mais je parle au début, quand on voit que ça, tout de suite que ça vrille, ouais, on arrête, non ?
Oui, bien sûr, mais on peut essayer d'arrêter et que ça ne pas y parvenir, on peut ne pas répondre. Et voilà, je pense que c'est vraiment une question éternelle à laquelle peu de femmes ont répondu. Comment on fait pour se défaire d'un gêneur ?
Vous l'avez connu, ça, vous ?
Oui, bon, ouais, tout le monde hein, le connaît.
Oui.
Oui. C'est oui, vraiment très banal, en fait.
Mais on arrête
et
très
personne
vite,
n'a
arrêté
la solution.
Vous avez arrêté ou vous avez continué, vous ?
Continue à quoi ?
À communiquer avec la personne qui vous en voulait un peu ou qui vous insultait.
Ah non, moi je disais rien.
Ouais.
Oui, non, ouais, non, je disais rien. Mais quoi qu'on fasse, en fait, on est toujours dans une situation où on a tort et on est perdante.
Oui, c'est compliqué.
Si on répond, t'aurais pas dû répondre. Si tu réponds pas, mais si tu réponds pas, en fait, comment peut-il savoir qu'il est gêneur ? Si tu bloques, mais enfin, c'est agressif.
Ouais. C'est le dilemme.
Donc
ouais,
oui, on ne sait pas, on ne sait pas comment réagir.
Bon, votre personnage va porter plainte à un moment, ouais, déclarer une sorte de maladie aussi, une maladie aux, ouais, yeux. Ce traumatisme, en fait, va bouleverser sa vie. Elle est perdue et on se demande vraiment tout au long du roman comment on en est arrivé là, parce qu'il y a pire comme situation.
Ah, oui.
Il y en a qui se font menacer par des extrémistes, par des djihadistes, par des choses beaucoup plus graves que ça.
Mmh. C'est pour ça qu'en fait ce genre de sujet n'a pas l'œil et l'oreille des institutions, de la police, de la justice et de l'entourage. On nous dit, quand ça nous arrive, et c'est ce qu'on dit à la narratrice, t'as qu'à pas aller voir, t'as qu'à pas aller voir. Mmh. Ce que tu ignores ne peut pas te faire souffrir. Or, quand on est pris dans la nasse, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Et puis être harcelé, on n'est pas harcelé sur Internet en fait, on est harcelé dans notre vie, on est harcelé dans notre corps. C'est l'être humain de chair et de sang qui palpite, qui est attaqué par ces comportements hostiles. C'est aussi pour ça que le livre s'appelle Les yeux rouges et que la narratrice somatise ce qui lui arrive. C'était pour montrer que être harcelé sur Internet, c'est pas comme être tabassé par un hologramme. Non, c'est bien réel et ça peut même être physique.
Vous le déplorez, ça? Vous le déplorez dans le roman? Est-ce que vous le déplorez, ça? Que il y a un manque d'écoute et un manque d'action de la police et des juges sur ce genre de harcèlement?
Ah, bien sûr que je le déplore, évidemment, parce que...
Parce que le dossier n'est jamais assez solide. Non. Soyons clairs, parce qu'il n'y a pas de menace frontale, il n'y a pas de menace de mort, c'est juste de l'intimidation sur Internet.
Mais c'est quand même une infraction, enfin, hein, c'est constitutif oui, bien sûr, d'une bien infraction. Sûr. Donc, théoriquement, elle devrait être poursuivie. Oui. Mais on me demande souvent, à votre avis, qu'est-ce qui nourrit le sentiment d'impunité? Bah, l'impunité, tout simplement. Ouais. Voilà.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Roland Buty est sur notre plateau pour Grand National, paru chez Zoé. Votre précédent roman, Roland Buty, Le milieu de l'horizon, prix du roman des romans, prix suisse de littérature et prix du public RTS, vient d'être adapté au cinéma avec Laetitia Casta. Vous êtes contente de ce film ?
Je suis très content, oui, c'est un très très beau film avec des acteurs assez extraordinaires. Certainement c'est une lecture du livre, une interprétation. Moi j'ai pas du tout collaboré, j'ai donné le livre comme ça pour que la réalisatrice en fasse ce qu'elle veut avec la scénariste, et du coup c'est une œuvre à part entière c'est même une découverte pour soi de voir le film.
Alors c'est un film assez délicat, très sensible aussi, comme Grand National, votre nouveau roman. Vous explorez la méconnaissance du passé de nos parents, notamment avec votre personnage qui retrouve sa mère dans un grand hôtel après sa fugue alors qu'elle vivait dans une maison de retraite. Il se rend compte qu'il ne sait rien de la jeunesse de sa mère.
Bah oui, parce qu'il est parti en apprentissage comme paysagiste à l'âge de 16 ans. S'il retranche les quelques années où il était très enfant, il a peut-être vécu 10 ans en conscience avec sa mère, guère plus. Et il va la retrouver dans un palace sur les hauts de Montreux. Et quand lui va discuter avec le directeur et qu'il fait un peu le calcul dans sa tête, il y a une infirmière qui passe chaque semaine, puisque la clientèle est aussi un peu âgée dans ses palaces. Il fait le calcul, ça lui coûte moins cher que la maison de retraite et il décide de la laisser dans le palace un certain temps.
Bon, il a un moment de son existence, en tout cas, au milieu de sa vie, va-t-on dire, où il est rattrapé par sa famille, celle qu'il a tenté de construire et celle de ses origines. Et on est tous confrontés à cela un jour. C'est la question de l'échec ou de la réussite familiale.
Oui, peut-être, mais en somme, le drame du narrateur, c'est que parallèlement, sa femme est en train de le quitter. Mmh. Et donc, il se rend compte que peut-être la femme avec qui il a vécu devient une étrangère, ouais. Que sa mère était aussi largement une étrangère pour lui. Mmh. Et effectivement, le livre tourne autour de cette question de qu'est-ce que c'est être étranger, parce qu'actuellement, il y a un employé du narrateur qui, lui, est un réfugié des Balkans.
Du Kosovo.
Qui, lui, est un réfugié politique. Et le narrateur est paysagiste et s'occupe des parcs de riches qui, en somme, viennent s'installer en Suisse. Mais en même temps, son employé, lui, il vit dans une autre chose qui me fascine, moi, beaucoup, c'est les jardins familiaux.
Oui.
Et on a en Suisse, comme partout, ces jardins ouvriers, maintenant jardins familiaux.
Une sorte de jardin solidaire,
voilà,
ouais, avec des cabanons.
Voilà, c'est-à-dire que c'est la ville qui donne des petites parcelles, elles sont très très réglementées chez nous, c'est toujours la même taille, avec l'eau courante, et on a le droit de faire un cabanon, mais pas trop grand, on peut pas y habiter, et ça me fascine.
Il y a cette dame dans votre roman, Madame Jacquet, qui est la voisine de chambre de la mère du narrateur, qui dit « J'aime les promesses. Je ne vis que de cela maintenant. J'attends, mais rien ne vient. Alors j'attends la prochaine promesse. Et en fin de compte, je ne regrette rien parce que j'ai consacré tout mon temps à espérer. La plupart des gens vivent ainsi. »
Oui, sûrement. Et le livre, c'est aussi l'histoire de la mère qui n'a pas eu la vie qu'elle voulait avoir.
Mais ils sont tous en train d'espérer, vos personnages.
Bien sûr, il y a toujours de l'espoir.
Carlo espère retrouver sa compagne, votre narrateur. Agon espère une nouvelle vie, le réfugié. Et puis, la mère de Carlo, elle espère renouer avec son passé grâce aux souvenirs avant de quitter ce monde, en fait.
Voilà, et ce qui les aide à espérer et à attendre, c'est les petites boules de haschich avec la confiture de coin.
Mais alors ça, c'est autre chose.
Qui les détend.
Oui, ça c'est autre chose. Oui, les petites boules que donne le narrateur à sa maman.
Ouais.
Fabriquées par Agon. Voilà, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais je sais pas, mais en tout cas c'est...
Ah, mais parce que l'ami dont je me suis inspiré m'a parlé de ça, effectivement. Et eux, ils se disent, mais voilà, ça c'est la bonne solution pour les maisons de retraite, le cannabis thérapeutique sous forme de petites pâtisseries.
Le roman de Roland Buty, Grand National, est paru chez Zoé, et celui de Myriam Leroy, Les yeux rouges, aux éditions du Seuil. Cap sur la Suisse pour ce bilan de l'année 2019, vu par nos libraires. Voici la carte postale culturelle de Claire Renaud, cette fois depuis Genève, avec un événement qui l'a marqué cette année, et aussi deux moments de radio, deux livres qu'elle vous conseille. Claire, c'est à vous.
Oui, Emmanuel. Alors, la carte postale que j'ai de Genève, elle fait écho à celle de Mathieu à Aix-en-Provence. C'est-à-dire que moi, c'est pas une petite librairie qui ferme, mais c'est une grosse chaîne qui vient d'ouvrir son troisième magasin à Genève. Alors, tout ce que je peux espérer, c'est que, vu qu'ils peuvent se permettre de casser les prix, c'est qu'on continuera quand même encore et toujours à entrer dans les librairies indépendantes qui offrent le conseil et surtout la chaleur, et qu'on ne choisira pas que le prix.
Mais oui. Oui, il faut acheter. On le dit, hein. On le dit à chaque fois, mais je prends encore une fois à témoin tout le monde. Il faut absolument acheter ses livres chez un libraire indépendant. Déjà parce que ce n'est pas plus cher ou pas tellement plus cher qu'ailleurs. Et en plus, ça permet de soutenir la culture. Et la culture, c'est la liberté et l'ouverture sur le monde. Et on en a foncièrement besoin. Achetez vos livres en librairie indépendante. Allez-y, voilà. Claire, désolé, c'est mon côté militant.
Non, mais vous avez raison, moi je voulais juste dire que j'aurais préféré vous annoncer une ouverture d'une librairie indépendante.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est sûr.
Bon, deux auteurs vous ont marqué cette année.
Oui, alors, d'abord c'est Le passage à l'antenne de Marlène Jobert. Je l'ai trouvé vraiment, mais c'était un moment de poésie, de simplicité, de modestie. J'aurais voulu rester avec elle et qu'elle me raconte des histoires.
Ouais.
Et puis pour l'ouvrage et l'auteur surtout, c'est Chalandon, qui est, j'ai envie de dire, mon petit chéri. C'est-à-dire quand il vient, il est adorable, il est sensible et touchant. J'adore tout ce qu'il dit, en fait. Ouais. Et puis, ses livres, c'est toujours une nouvelle découverte.
Le petit chéri, Sorge Chalandon, c'est le petit chéri de Mathieu Colombe aussi, je crois, Mathieu. Vous l'aimez beaucoup,
oui.
Sorge.
C'est un auteur que j'adore. Ouais. J'aime énormément Sorge Chalandon. C'est quelqu'un qui me retourne à chaque fois que je le lis.
Merci, Mathieu.
Et Déborah Damblon, elle est amoureuse de Marlène Jobert parce que les livres jeunesse, c'est pour elle, c'est sa spécialité.
Voilà. Et, oui. Et puis, je vais vous dire tout de suite de qui d'autre je suis amoureuse, Emmanuel.
De moi
aussi, mais ça c'est tout le monde le sait.
De qui alors?
Ben vous allez voir.
À tout à l'heure, oui.
Mon tour.
Très bien, c'est bien. Faites durer le suspense, vous avez raison. Vous devriez faire de la radio, Déborah. On écoute.
Je vais y penser.
On écoute tout de suite Sorge Chalandon, suivi de Marlène Jobert dans la librairie francophone. Et bonjour Sorge Chalandon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Une joie féroce, c'est le titre de votre nouveau roman paru chez Grasset. Disons-le tout de suite, ce n'est pas un livre facile, Sorge. Vous qui avez exploré les conflits du monde, vous vous intéressez à une autre guerre, le combat contre la maladie. Et vous avez choisi quatre femmes qui n'ont eu aucune chance dans la vie. C'est le drame qui s'enchaîne avec le drame, ce livre.
Alors c'est le drame qui s'enchaîne avec le drame, mais ce qui m'intéressait moi, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un drame lorsqu'il arrive ? C'est-à-dire, lorsque je me retrouve avec un traître en Irlande, j'en fais quoi ? J'essaie d'en faire un roman. Mmh. Quand je reviens de guerre, j'en fais quoi ? J'essaie d'en faire un autre roman. Quand ma femme a un cancer, j'en fais quoi ? Et quand je suis frappé à mon tour 11 jours plus tard, j'en fais quoi ? Ben, j'essaye de faire autre chose que juste de pleurer sur mon compte. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est on fait quoi lorsque ça arrive ? Comment est-ce qu'on s'extirpe de ça? Ma femme, un cancer du sein, moi, un cancer de garçon. Faire un livre sur un cancer de garçon, je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. D'autres l'ont fait, l'ont bien fait, je vais pas revenir dessus. En revanche, on m'a souvent, pas reproché, mais on m'a souvent fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans mes livres. C'est-à-dire, je pense que
c'est vrai.
Ça vient d'une mère qui a été absente, et donc les femmes sont plutôt dans l'ombre de mes romans.
Oui, mais pourquoi est-ce si triste en fait? Parce que c'est
pourquoi si triste?
Les quatre femmes, elles sont toutes les quatre malades.
Non, mais attendez,
elles ont toutes les quatre perdu
un
enfant.
C'est un livre de résistance.
C'est dur.
Mais c'est pas dur du tout.
Ah, si, c'est dur.
C'est d'où on vient et où on va.
Oui.
On arrive à la lumière et on part de l'obscurité. Alors, je ne dis pas que c'est un mode d'emploi parce que elles font un casse toutes les quatre d'une grande bijouterie de la place Vendôme. Je ne dis pas aux femmes qui ont un cancer du sein, faites un casse de la bijouterie de la place Vendôme, ça ira mieux. Mais en tout cas, le problème, c'est que ces quatre femmes-là s'en sortent comme ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque ça arrive ? Eh ben, on se rebelle, on lutte et on résiste.
Alors, ce combat pour la vie va être mené par trois autres femmes, elles aussi malades, donc on l'a dit, elles ont besoin d'une grosse somme d'argent pour aider l'une d'entre elles. Mais les banques ne prêtent pas à un malade. Alors, elles vont monter un braquage.
Oui.
Et la morale de votre histoire, c'est que la société est en partie responsable de ce braquage.
Alors, c'est plus compliqué que ça. Moi, ce que j'ai envie d'écrire, c'est une fable, c'est un conte pour adultes. Donc, c'était pas quelque chose qui je n'ai pas envie que la morale soit, donc c'est la faute à la société. Non. C'est comment on fait? Comment on fait quand on vous prête plus? Comment on fait quand les copains se détournent? Comment on fait quand les copines ne vous téléphonent plus? Comment on fait quand on se retrouve seul? Et comment on fait que lorsque les seuls qui vous comprennent et les seuls qui vous entendent sont celles qui sont chauves comme vous? Donc oui, il fallait que ces femmes soient face à quelque chose qui était plus grand qu'elles, extraordinaire. Donc j'ai mis un dispositif en place. Pourquoi un braquage? Parce que ça ne leur ressemble pas. Parce que Jeanne, petite libraire sympathique, formidable, qui défend ses livres comme on plaide au tribunal, elle est géniale, Jeanne. Mais Jeanne, comment est-ce qu'on peut imaginer que Jeanne va avoir un jour... D'abord, elle va quitter Matt, elle va avoir une arme en main, elle va rentrer dans une bijouterie. Comment est-ce que c'est possible? C'est ouais, possible. C'est moi, ce que je voulais,
tout peut arriver,
c'est
quoi.
Sublimer, absolument. Ben ces oui. femmes n'ont plus rien à perdre. Ben oui. Elles ont le dos au mur, cet argent, il leur faut. On verra après que la trahison n'est pas loin, mais enfin, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, cet argent, non. il leur faut. Et elles vont aller au bout de ce qui est pensable, alors qu'un quart d'heure avant, c'était totalement impensable.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et Marlène Jobert est dans la librairie pour le livre de la jungle, adaptation de la célèbre histoire de Kipling, livre CD avec Eva Green et la musique de Jean-François Leroux. 15 millions de livres vendus à travers toute la francophonie depuis les années 80. Et Eva Green, devenue une star mondiale du cinéma, dont vous êtes très fière, je sais Marlène, raconte qu'elle aimait tellement vos histoires avec sa sœur jumelle que ça a duré jusqu'à l'adolescence.
Surtout elle. Je me souviens, à 12-14 ans, si je venais m'asseoir sur le coin de son lit, elle aurait aimé que je continue de lui raconter des histoires. Elle se lassait pas, elle adorait ça, les histoires de sorcières surtout. Ouais. Il fallait qu'elle soit longue, 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 qu'elle fasse très, très, très peur et qu'elle se termine très bien.
Et qu'est-ce que ça a généré en elle, d'après vous?
C'est vrai que le hasard a fait qu'on lui a proposé trois fois des rôles de sorcières. Oui.
Bon, ces récits avec les livres pour enfants sont reconnus par les pédopsychiatres comme une manière pour les parents de transmettre des valeurs, mais aussi des idées sur la vie. Et c'était ça votre objectif de départ, Marlène Jobert. Pas seulement de divertir.
En divertissant. Oui. Il faut passer par le ludique si on veut transmettre quoi que ce soit aux petits. Hein. Sinon, on n'y arrive pas. Si c'est pas le jeu, le chant, la danse ou les contes, on n'y arrive pas, on n'y parvient pas. Donc, voilà, moi je leur raconte une histoire, mais j'aime aussi leur transmettre quelque chose, leur apprendre quelque chose, leur faire découvrir la beauté de la musique classique, par exemple, à travers un conte fantastique, ou les pays, les coutumes, les cultures et les musiques des pays lointains. Enfin, ce sont des collections pour lesquelles j'ai mis toute mon âme, qui ont beaucoup plus.
Bon, on va écouter un extrait du livre, parce qu'il y a un CD oui. interprété avec votre fille. Eva Green.
Voilà. Tu ne peux plus rester ici. C'est trop risqué. Tu dois quitter la jungle. Retourner chez les hommes. Ta vraie famille.
Mais ma vraie famille, ce sont les loups. C'est toi et Balou. Tout le monde m'aime ici.
Non, ne crois pas ça. Ceux qui veulent que tu t'en ailles sont de plus en plus nombreux.
Mais pourquoi? J'ai rien fait de mal.
Le livre de la jungle véhicule certaines valeurs avec cette opposition du monde sauvage au monde civilisé. Mais chez Kipling, qui avait reçu le prix Nobel d'ailleurs de littérature en 1907, c'est le monde civilisé qui triomphe malgré une portée écologiste. C'est ce que vous avez retranscrit aussi.
Le conte s'arrête où il quitte la jungle pour découvrir la civilisation. Mais on ne sait pas encore comment il va trouver ça. Et je crois que ça se passe pas si bien que ça après. Ouais. Disney, ils ont fait aussi la suite.
Oui, ils ont fait la suite.
La suite, et ça se passe pas très bien parce qu'il est... Il n'est pas admis. C'est comme... un animal sauvage pour les...
C'est comme Tarzan, quoi.
Voilà, ouais. Exactement.
Vous soulignez le courage dans votre adaptation. Oui. Le courage et la bienveillance que nous devons conserver pour le monde animal.
Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. En plus, ceux-là, ils sont particulièrement sympas. Hein. Et vraiment, ils sont tendres, ils le considèrent comme des leurs. Et c'est très, très touchant, la manière dont Bagheera et Baloo l'entourent, le protègent. Oui. C'est joli.
Pourquoi vous l'avez adapté, ce conte-là? Parce que Dieu sait s'il a été adapté.
Ah oui.
On va peut-être vous le reprocher, ça, en disant pourquoi cette histoire.
C'est ce que je me suis... c'est mes éditeurs qui me l'ont proposé et j'ai refusé jusqu'à ce que, je cède et je regrette pas. C'est vrai que c'est un conte qui a beaucoup plu à mes enfants quand elles étaient petites et à moi aussi. Mais ça avait été tellement fait que je me suis dit, mais pourquoi? Tout le monde en a au moins un dans chaque foyer. Ouais. Qu'est-ce que je vais en faire encore un? Et puis finalement ça m'a donné autant de mal que si je l'avais écrit, parce que je l'ai complètement démonté, tout en conservant évidemment les fondations de Kipling, j'ai pas trahi.
La clé de l'histoire aussi, celle de retrouver sa vraie famille.
Oui.
Un peu comme si nos illusions étaient toujours rattrapées par nos racines.
Ouais,
vous le pensez ça?
Attendez, je vais réfléchir à cette phrase. Nos illusions sont rattrapées pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut rien, on ne peut pas aboutir à ces illusions à cause de ces racines. C'est ce que vous voulez dire un peu, non ?
Les illusions qui sont rattrapées par nos racines. On croit en des choses, on essaye de sortir d'un canevas.
Et
mais
on s'en sort pas.
Et oui, parce qu'on est tenu par nos racines, parfois. Je sais pas, je pose la question.
Ouais.
Je me la pose moi-même.
Moi aussi, je me la pose aussi. Et j'ai pas de réponse.
Vous êtes né à Alger, vous ?
Oui.
Vos racines, elles sont un peu là-bas ?
Oui, mais j'ai quitté Alger, j'avais 8 ans.
Alors, est-ce qu'elles vous rattrapent parfois ?
Je crois pas, à part le couscous que j'adore. C'est fini. J'ai vécu surtout en Bourgogne. Ma petite enfance, c'est en Bourgogne. C'est pas.
Vous êtes réenraciné en Bourgogne.
Oui, voilà.
Et ça vous a rattrapé.
Oui.
Aujourd'hui, c'est drôle parce que vous racontez qu'au supermarché, on vous reconnaît comme étant celle qui raconte des histoires.
Oui, la dame qui raconte des histoires.
Plus comme la comédienne. Ça dépend de la génération. C'est ça. Touchez toutes les générations. Merci beaucoup, Marlène Jaubert. Le livre de la jungle, c'est chez Glénat Jeunesse. Il y a les dessins magnifiques d'Hervé Le Goff.
Ah oui, il faut le mentionner, celui-ci, parce qu'il a un talent fou.
C'est magnifique.
C'est très joli.
C'est très joli. Le livre de la jungle de Marlène Jaubert, c'est chez Glénat Jeunesse, et le roman de Sorge Chalandon, Une joie féroce, est publié chez Grasset. Dans un instant, les choix de Déborah Damblon en Belgique avec les bidochons érotiques de Christian Binet, et l'incroyable auto-analyse de Charlie Delwart. Pour fêter la transition 2019-2020, voici le groupe Magenta. Montez le son, vous écoutez la dernière librairie francophone de l'année. Merci pour votre fidélité et bonne fête à tous.
Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici-bas avec moi, pour te maintenir intact, en état? Ça vaut bien un sourire. Je veux balayer d'un soupir le dark, le mauvais sang, comme le soleil va rougir dans le jour naissant. Thank you.
C'était le groupe Magenta avec Assez dans votre librairie.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et on part donc tout de suite en Belgique pour la dernière sélection de nos libraires et une carte postale signée Déborah Damblon qui fait son bilan 2019 personnel et bien sûr culturel, Déborah.
Alors, cher Emmanuel, ici en Belgique, à Bruxelles, l'événement culturel qui m'a marqué, c'est le choix du prix Rossel. Ouais. Le prix Rossel, vous savez, notre grand prix national, il a opté pour « Trois incendies » de Viviane Mauchler, paru chez Stock. Alors d'abord, le choix parce que c'est un très bon roman, mais surtout parce que c'est un roman qui était passé totalement inaperçu. Il n'avait pas eu de presse, personne n'en avait parlé, il n'avait pas eu de vie carrément. Et grâce à ce prix qui a été remis plusieurs mois plus tard, il est revenu sous le feu des projecteurs et je trouve que c'est très très bien.
C'est l'intérêt d'un prix comme le prix Rossel qui est l'équivalent du Goncourt, hein, s'il faut comparer avec la France par exemple.
Tout à fait.
Alors deux auteurs, deux livres, très particuliers.
Deux auteurs, deux livres, très bizarres. Très particuliers, très différents. Alors Data Biographie de Charlie Delwart, parce que j'étais à la base pas le public cible et que contre toute attente, j'ai été bluffée par cette Data Biographie pleine de chiffres, de dates, de machins qui sont pas du tout pour moi. Ouais. Et ce livre a vraiment marqué mon année. Pourtant, c'était à côté.
Ouais, c'était pas gagné.
Ça... Ah non, pas du tout, pas du tout. Et c'est de la vraie littérature, n'est-ce pas Emmanuel? Le livre, il m'a fait voyager, il m'a fait réfléchir, il m'a fait rêver, et puis j'y reviens sans cesse.
Bien, et puis donc un certain Binet.
Eh ben oui, Binet et les Bidochons. Alors vous allez me dire, pourquoi Binet?
Parce que vous êtes amoureuse de lui.
Mais parce que Binet, Emmanuel, ben oui, oui.
Je sais pas, d'abord. Vous avez dit, je vais vous dire de qui je suis amoureuse tout à l'heure, donc je suis perdu.
De Binet,
là.
De Binet.
Ah bon,
ben
ça va lui faire plaisir, Christian.
Parce qu'on a chacun nos héros, et parce que je trouve que lire les Bidochons, c'est sain, ça nous remet à notre juste place, et donc ça rend la vie meilleure. Et puis, écoutez, Binet parler avec vous, c'était juste un grand, grand moment
de
radio.
Parce que c'était un peu particulier, on va l'entendre tout de suite. Josiane, au Canada, vous aimez lire les Bidochons, vous?
Je vous avoue que ça manque à ma culture.
Ah, vous ne connaissez pas.
Je vais humblement avouer que ça manque complètement à ma culture. Alors, Déborah, je vais m'y mettre. Parce que tu vas m'engueuler, hein.
Je vais te suivre jusqu'à ce que ce soit fait.
Je m'engage officiellement à le faire.
Très bien, vous avez raison, parce que c'est une très bonne bande dessinée. C'est le tome 22 déjà. Voici Charlie Delwart qui a quantifié sa vie passée et à venir. Et puis donc, Binet avec ses Bidochons libérés, voire un peu, même beaucoup, dévergondés. Charlie Delwart, après Circuit, plein de romans très, finalement, normaux, concrets, vous publiez le livre le plus étonnant de cette rentrée littéraire, Data Biographie, qui raconte avec des textes, des graphiques et des inventaires chiffrés les 44 ans de votre vie. Et vous vous posez des questions sur tout le temps.
Oui. Et donc j'ai commencé à chiffrer, à faire des ratios. Des choses assez simples, mais qui me parlaient, comme le nombre de spermatozoïdes produits et le nombre d'enfants que j'ai eu.
Ouais.
1 billion contre 3. et je trouvais que tout d'un coup, on arrivait à une approche assez brute de l'existence.
Donc du coup, on se prend en jeu parce qu'on s'analyse soi-même, on coche des cases, comme vous, sur nos phobies, nos jours passés à faire du sport, à avoir des relations sexuelles, au nombre de personnes rencontrées, à ce qui nous angoisse ou préoccupe le plus. On a une vague idée, vous, apparemment, tout va bien, hein, parce que faire le bilan de sa vie, c'est pas si anxiogène que ça.
Je trouve pas. Je trouve qu'en fait, ça sert vraiment à mesurer la différence entre l'image qu'on se fait de soi-même et qui on est vraiment. Et je trouve qu'une fois qu'on le fait, alors il faut peut-être une sorte de sérénité pour le faire. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait de le faire qui provoque la sérénité, mais au bout du compte, j'en sors justement plutôt relaxé de ça.
Alors, vous avez vécu 385 440 heures. Statistiquement, il vous en reste 310 000, j'arrondis, hein, parce que vous êtes plus précis que ça. 310 000 à vivre. Vous avez voyagé légalement en transport public 7 476 fois, 102 fois sans ticket. Vous avez fumé 189 851 cigarettes et vous avez mis 4 959 couches, ça peut durer longtemps. Et ces chiffres sont fantasques, bien sûr, Charles-Emmanuel. Car c'est votre prénom, Charles-Emmanuel.
Ces chiffres sont assez réels, moi, je trouve, en fait. J'ai vraiment pris le temps de trouver des formules et j'ai même, à la fin du livre, oublié tous les chiffres que j'avais trouvés pour les recommencer, pour être sûr. Alors, parfois, je galérais sur certains chiffres. Mais ce qui m'importait, c'était la masse, que la masse soit juste. Mmh. Et donc, vraiment, j'ai fait l'effort et je crois que je suis assez proche. Alors, pas au chiffre près, mais non. Ça correspond.
Non, ça correspond à peu près, oui. Vous avez volé aussi dans votre vie à Charlie Delwart.
Très peu de choses. Et justement, ces graphes-là, comme le nombre de transports avec le sans ticket, mesuraient mon faible taux de délinquance.
Ouais, 3 verres de vin, vous avez volé. Des verres vides ou des verres
Des verres vides.
Ah, vous volez des verres de vin?
Non, mais en fait, il y a des volés par inadvertance.
Non, mais là, c'est pas par inadvertance. Là, c'est intentionnellement, vous le dites.
Ah, je crois, oui. Parce que parfois, on se retrouve avec un verre vide et on sait pas pourquoi.
Par inadvertance, dans la poche.
J'ai dû peut-être voler, oui, c'est vrai.
Donc, vous avez 3 enfants, vous l'avez dit. Ce qui fait de vous plus un Polynésien qu'un Européen. Exactement. Expliquez-nous.
À Paris, le taux de fertilité, c'est 1,54.
En Europe, oui.
En Europe, c'est 1,6. Et 3, c'est plus Tuvalu, la Polynésie. Et donc, ayant 3 enfants, en fait, je trouve que ça explique des choses, en fait. Et j'aime bien cette irruption de mythologie personnelle dans mon quotidien. C'est-à-dire que si on se considère soi-même comme un Polynésien, du coup, je sais pas, on gagne quelque chose à vivre. Enfin, voilà, je sais pas, c'est une petite
vous
image.
Vous gagnez quoi? Vous êtes comment en Polynésien?
Je sais pas, c'est déjà les vacances, en fait.
C'est vrai?
Ouais.
Vous dites quelque chose de très sensé, de très beau sur la construction d'une famille, Charlie Delwart. Vous écrivez « Quand on crée une famille, on crée une forme de chaos, un ensemble expansif, mouvant, protéiforme, évolutif. Depuis 2 ans, je prends en photo ce chaos l'été. Il y a de la beauté, vous dites, à avoir créé un chaos comme ça.
Ouais, » je le remarque d'autant plus au 3e enfant, où là vraiment ça devient moins maîtrisable, moins gérable. Mais il y a comme tout une organisation spontanée. C'est la même organisation qu'il s'agit de trouver dans Databiographie, en fait, avec les chiffres, c'est de se dire tout ça est né de manière très chaotique. Ma vie, chemin faisant, elle a répondu en partie à des choses précises, mais d'autres se sont faites comme ça. Et en les retraçant, on trouve un ordre aux choses.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Christian Binet.
Et bonjour.
Les Bidochons relancent leur couple, c'est le tome 22 qui vient de paraître chez Dargaud. On est fan des Bidochons ici, vous le savez Christian, mais parler de la sexualité de Robert et Raymond, c'est un peu, comment dire, dérangeant, pas très appétissant.
Ben non, mais justement, je voulais éviter ça. C'est pour ça que je cherchais le sujet, parce que c'est vrai, la sexualité des Bidochons, c'est un thème que j'avais pas vraiment beaucoup abordé.
Ouais.
Et il s'est trouvé qu'une amie de mon épouse a participé à une soirée sex toys, et quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, mais c'est tout à fait ça, parce que c'est de la vente à domicile. Donc ouais, c'est les mêmes qui achetaient à une époque des ustensiles de cuisine en plastique.
Ouais.
Donc ils se sont reconvertis, maintenant, ils achètent du sex toys. Mais ils parlent comme il parlait des avant, c'est-à-dire qu'il parle de la qualité, de la texture, etc. Et en même temps aussi de leurs problèmes personnels ou de leur sexualité, mais avec beaucoup de liberté, de légèreté. Ne serait-ce que parce que déjà on les accueille avec un verre de sangria, donc ça
désinhibe.
Ça désinhibe, voilà. Et puis surtout quand elle m'a dit, en fait, les cosmétiques, style cosmétiques pour exacerber les sensations clitoridiennes, on passe l'une après l'autre à la salle de bain pour les essayer, et puis ensuite on revient finir le verre de sangria, parce que c'est la vente à domicile, c'est pas une orgie. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ma Bidochon est un peu tout à fait dans ce genre de truc.
Ah ben, Raymond Bidochon va effectivement participer à ces soirée coquine. Robert est complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien aux jouets sexuels. Vous êtes informé vous-même, Christian Binet, un cock ring, j'ai noté ça, ou des nipple covers, hein, puisque tout est en anglais. Vous saviez déjà ce que c'était, vous pratiquiez peut-être?
C'est gentil. Ouais,
non, mais quoi?
Vous essayez de me mettre mal à l'aise, mais vous n'allez pas y arriver.
Ah, mais pas du tout. Moi, je pose des questions, c'est tout.
Abandonnez ça.
Mais non.
Je veux dire,
je suis dans le sujet, Christian.
Mais les sex toys, vous les trouvez en grande surface. Oui. Vous trouvez des vibromasseurs en grande surface. Vous allez sur un site de vente par correspondance bien connu. Vous avez tout, vous avez même les menottes, les fouets, tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc voilà.
Ça vous a tenté, vous, un moment, ou vous êtes défoulé dans la
tout.
BD?
Moi, je trouve que plus c'est naturel, plus ça me plaît.
Bon, en tout cas, il y a Raymond qui dit à Robert, qui ne comprend absolument rien, c'est pas la peine de vieillir si c'est pour devenir vieux.
Ouais, mais ils ont des formules comme ça, on comprend bien ce que ça veut dire.
Bah oui,
c'est un peu maladroit. C'est comme Monsieur Bidochon qui disait, les vacances, il faut se forcer, sinon c'est pas la peine. Et je me rappelle...
Vous êtes le roi pour ce genre de petites phrases.
Bah oui, mais non, mais j'ai pris ça de grands comme Fedo, par exemple. Je me souviens ce type qui se plante devant la fenêtre et qui dit, c'est pas pour me vanter, mais je pense qu'il va pleuvoir. ces choses-là, on comprend ce qu'il va le dire, mais en même temps, c'est une maladresse dans le propos qui fait que ça crée du comique.
Raymond va lui faire une surprise avec une tenue de nuit censée être coquine. en lapin. Il faut la voir parce que c'est magnifiquement dessiné, on va dire. Et puis il y a cette histoire de canard. Lors de la soirée lingerie et sextoy, la copine de Raymond lui conseille de prendre un canard qui a la queue qui vibre. Et elle lui dit « Prends le canard, ça passera pour de la déco ».
Voilà. Mais ça, c'est archi connu. Hein. Ça, c'est un vieux truc, ça, le canard vibrant.
Oui, c'est le bec qui vibre, hein, j'ai dit la queue.
Oui, c'est le bec.
En même temps, la bec.
Ah, ouais, vous êtes vraiment en novice. Hein.
En canard qui vibre, ouais. Je vous avoue que oui. Alors, Robert dira, c'est quoi ce canard dans la salle de bain? Tu joues encore dans ton bain, toi? En fait, il est un peu, comme tout le monde, beaucoup de monde en tout cas, il a un peu de mal à comprendre l'intérêt de ses jouets sexuels. C'est oui. Ça, les bidochons aussi. C'est un peu chacun d'entre nous.
C'est un peu ça, mais monsieur Bidochon, oui. Il ne faut pas trop le perturber dans ses habitudes, etc. Mais moi, je sais que mon fils, pour rigoler, il a offert un canard vibrant à ma belle-fille.
Ah oui.
Donc, c'est un certain bain, les gosses jouent avec. Hein. Mais ils trouvent que ça nage pas assez bien, ça.
Non, mais Christian, c'est pas possible.
Mais si, oh, bah, c'est... Bah, attendez, ils ont tous accès à Internet avec leur portable, je vous assure qu'ils envoient les pires. Moi, je fais de l'humour.
Oui.
Finalement, ça, oui. Il y a tas de choses qui passent qui ne les choquent pas.
Hein. Oui, et puis ça reste un canard.
Ouais. Bah oui, là, c'est un canard.
Un canard qui bouge, quoi.
Oui, voilà.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Michel Galabru, cette voix incroyable, c'était dans la librairie francophone. Il nous manque beaucoup, Michel. Data biographie de Charlie Delwart est éditée par Flammarion et les Bidochons relancent leur couple. Tome 22, c'est chez Dargaud. On va rester sur cette ambiance érotique. Ça va plaire à Mathieu Colombe, notamment, notre libraire français, à Déborah, à Josiane et à Claire Renaud en Suisse. N'est-ce pas?
Mais bien sûr.
Avec plaisir.
Toi, Déborah, moi, je pense.
Il faut lire les Bidochons, Josiane. Hein.
Oui, promis.
Il va falloir s'y mettre en 2020. Bon, oui. Merci à tous les quatre. Vous avez été merveilleux tout au long de cette année. Je tiens à le souligner et à vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe. Les libraires dans cette émission sont exemplaires. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir, Emmanuel.
Bonne fin d'année à vous.
Bonne fin d'année, Emmanuel.
Merci. Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone signée Aziza Brahim, une chanteuse sahraoui, avec un extrait de Moudjayam. Aziza Brahim avec Moudjayam, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Charles Pélabon et Thomas Langlin à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, pour la première émission de 2020, on vous emmènera au Maroc, à Essaouira, pour vous faire découvrir la musique gnawa qui vient d'être classée patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous serons aussi avec Philippe Delerme et notre séquence Livre de poche économe, ce sera avec Philippe Torreton et Jane Birkin. Je vous souhaite un bon boudan, comme on dit en Provence, dans le sud de la France, et surtout le meilleur réveillon possible. À bientôt, salut.